de la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Christelle Yesso.
Madame et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'édition de la mi-journée. Numériser les ressources des collectivités territoriales était l'objectif d'une conférence dénommée CNTIG User Conference tenue la semaine dernière. On en parle en début d'édition. Et suite à l'annonce du Premier ministre de suspendre les opérations de déguerpissement à Abidjan, les politiques et civils réagissent. Les réactions du FPI, PPACI, PDCI et des populations à suivre dans ce journal. Et dans l'actualité internationale, COP29, 300 milliards de dollars d'aide seront remis aux pays vulnérables. Un trompe-l'œil dénonce des ONG et des négociateurs. Dans le dossier d'actualité d'aujourd'hui, nous irons à Biankouma, où les habitants sont contraints d'utiliser des tricycles pour leurs déplacements, faute de taxi. Cependant, ces moyens de transport ne garantissent pas la sécurité nécessaire. On en saura plus dans quelques instants avec notre correspondant Stéphane Adams. Et nous terminerons avec l'honorable Soumaïla Kwasi Bredoumi, porte-parole du PDCI, qui sera notre invité de la rédaction. Il revient sur l'instauration de la Journée nationale de la paix, décrétée par feu le président Henri Konan Bédié en 1996. Jeudi dernier, les utilisateurs des services du Comité national de télédétection et d'information géographique, en abrégé le CNTIG, se sont réunis à Abidjan. L'objectif était de communiquer sur l'expertise de l'organisation. Le CNTIG a présenté ses services, notamment le e-commune, qui vise à mobiliser des ressources pour les collectivités territoriales. Cette conférence, qui en est à sa première édition, s'est tenue sous le thème « L'appropriation des outils géodécisionnels pour relever les défis et améliorer les performances opérationnelles des structures ». Mais l'Emmanuel pour le compte-rendu.
Des visites de stands, des panels, des communications, ce sont entre autres les activités qui ont meublé cette journée dédiée au CNTIG et ses utilisateurs. Le directeur général, Dr Edouard Fongbéi, est revenu sur les impacts des produits de sa structure dans la gestion des défis opérationnels dans les domaines que sont
le développement local, la gestion des infrastructures, la gestion climatique, l'urbanisation, le développement économique, le transport et les services publics.
Au titre du développement local, le directeur du numérique et des statistiques du CNTIG, Aounou Jacob, a présenté les avancées réalisées telles les solutions e-communes et e-régions aidant à une meilleure mobilisation des ressources.
Ces outils permettent aujourd'hui la géolocalisation des contribuables sur des étendues des collectivités territoriales, l'évaluation du potentiel fiscal qui permet aux élus de pouvoir maîtriser leurs recettes fiscales, le paiement électronique des taxes communales et régionales.
Pour ce qui est du secteur de l'éducation, le directeur des statistiques et de l'informatique au ministère de l'enseignement technique, Diakité Daouda, a également fait cas de l'outil dont bénéficie son ministère pour l'amélioration de ses performances.
C'est le système d'information géoréférencé de la classe scolaire de l'ETFPA qui aide donc à l'amélioration de la planification, la gestion équitable des ressources éducatives et le renforcement des politiques publiques en matière d'enseignement technique, de formation professionnelle et d'apprentissage.
Rappelons que le Comité national de télédétection et d'information géographique, CNTIG, accompagne stratégiquement les structures publiques et privées dans la mise en œuvre de leurs projets de développement et de modernisation à l'aide d'outils géospatiaux.
Et après celle du CNTIG, une autre conférence s'est tenue à Abidjan avec pour objectif de présenter aux jeunes entrepreneurs des solutions financières et concrètes afin de les aider à transformer leurs compétences et connaissances en succès professionnel et entrepreneuriaux. Organisée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGCI, en collaboration avec l'Organisation Internationale des Employeurs, OIE, cet événement s'est tenu sous le thème « Finances innovantes, propulser carrière et entrepreneuriat ». Entrepreneuriat par l'éducation financière. Les explications de Mata Touré.
Comment permettre aux jeunes de Côte d'Ivoire d'apporter leur savoir-faire aux entreprises en quête de compétences spécifiques? C'est tout le sens du projet T4Work, où 3000 jeunes en provenance de 41 villes du pays ont été formés à l'usage du numérique pour le développement de leurs activités ou pour la recherche d'un premier emploi. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et ses partenaires ont donc décidé de s'associer pour organiser un événement dédié à l'éducation financière pratique. Désiré Poucré-Porquet était la tête de la commission formation emploi à la CGC, elle explique le rôle joué par sa structure.
On œuvre à ce que les formations qui sont délivrées dans les universités, dans l'enseignement technique, correspondent à ce que les employeurs demandent et ont besoin dans leurs entreprises.
Amadou Sakou est le conseiller Afrique de l'Organisation internationale des employeurs qui, au vu des résultats positifs obtenus, va entrer dans une nouvelle phase.
Celle de la post-formation, où nous allons au-delà de l'apprentissage pour ouvrir les portes de l'inclusion financière et de l'autonomisation entrepreneuriale.
Ce sont plus de 1000 jeunes qui ont pu de façon concrète être en contact avec des banques partenaires via le CADI et la responsable éducation financière dans une banque de la place.
Nos experts aborderont des thématiques fondamentales sur comment gérer vos finances personnelles avec efficacité dès aujourd'hui, quelles stratégies de financement peuvent aider à concrétiser vos projets entrepreneuriaux.
Lancé au Sénégal, en Ouganda, en République démocratique du Congo et au Lesotho, le programme Tech at Work a formé plus de 15 000 jeunes à ce jour.
Tout autre sujet à présent. En prélude à l'élection présidentielle 2025, une convention a été signée mardi dernier entre les organisations de la société civile et le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté afin d'éliminer toute forme de violence durant ces élections. À partir de janvier, ces deux entités sillonneront tout le territoire national pour sensibiliser les acteurs sociaux à la paix, nous explique Christian Adjelou, directeur de l'encadrement du suivi et de l'évaluation des acteurs sociaux.
Dans le cadre des élections à venir, Madame la ministre a lancé un programme appelé Programme de cohésion nationale 2024-2025. Il s'agissait de travailler en synergie d'action avec les organisations de la société civile pour créer un climat favorable de paix à la réussite des élections de 2025. Donc nous allons mettre ensemble des programmes d'action conjoints et aller sur le terrain pour mener des missions de renforcement de capacité des acteurs sociaux. Ensuite, des missions de sensibilisation. Nous allons surtout travailler de concert avec les différentes couches, les jeunes, les femmes et également les guides religieux. En fait, tous ceux qui ont une influence sur la société, tous ceux dont la voix porte. Donc ce sont des organisations qui sont représentées à l'échelle nationale. À partir de janvier, Madame la ministre nous a automatiquement mis en mission. L'objectif étant vraiment d'être au plus près des populations, de porter ce message-là pour que nous ayons des élections apaisées et que nous ne puissions pas revivre le traumatisme de 2020.
C'était Christian Adjelou, directeur de l'encadrement du suivi et de l'évaluation des acteurs sociaux au ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Déguerpissement des populations du district d'Abidjan. Depuis quelques jours, le gouvernement a suspendu l'opération et appelle à accélérer le processus de recasement des victimes, ce dont se réjouit le vice-président du FPI chargé des questions électorales, tout en dénonçant la précipitation avec laquelle l'opération a été faite. Kwaku Kra est joint par Francis Kassi.
Nous ne pouvons que saluer cette suspension dans la mesure où le Front populaire ivoirien avait dénoncé cette opération qui avait un caractère vraiment inhumain. Et si aujourd'hui le gouvernement a suspendu cette opération, le gouvernement a entendu le cri de cœur du Front populaire ivoirien. Il faut tenir compte des victimes, des populations, de leurs droits. Donc je pense que c'est à juste titre que l'opération a été suspendue.
Et on demande l'accélération du processus de recasement des victimes.
Oui, c'est normal quand tu déplaces, il faut replacer quelqu'un qui a l'habitude de vivre et que l'État se permet de les déranger. Il faut maintenant arranger leurs conditions. C'est ce que nous avions dénoncé parce que c'est un programme qui n'a pas été savamment pensé, savamment planifié. Et dans la planification, il aurait fallu voir ce qu'il était en mesure de faire avant. Prendre en compte les besoins des populations qu'on devrait déguerpir. Il y a les besoins de santé, les besoins de logement, les besoins de scolarisation de leurs enfants, les besoins de transport, les besoins de travail, d'emploi. C'est tous ces aspects qu'il fallait prendre en compte avant de se lancer dans l'opération. Mais malheureusement, ils ont mis la charrue avant les bœufs.
Alestan Kwakukra, vice-président du FPI chargé des questions électorales. Le PPACI salue également cette décision, tout en espérant qu'elle ne soit pas politicienne. S'exprimant par ailleurs sur le financement trimestriel légal des partis politiques, le parti de Laurent Gbagbo révèle n'avoir reçu cette subvention qu'une seule fois durant cette année 2024. Le porte-parole adjoint du PPACI, Tchéidé Jean-Gervais, est en ligne avec Soro Adams.
Nous apprenons que le gouvernement, par la voix du Premier ministre, informe que le président de la République a donné des instructions pour que on arrête les opérations de déguerpissement que nous avons qualifiées de sauvages et inhumaines et de donner la priorité au recasement. Eh bien, c'est une bonne chose. Et il faut maintenant s'assurer que ce n'est pas seulement un langage politique pour apaiser ou faire diversion, mais que ce sera suivi effectivement d'actes concrets pour que ces populations désemparés depuis près d'un an, qui sont aux abois, dont la vie a été bouleversée, retrouvent un minimum de quiétude et de dignité humaine.
Honorable Tchéidé Jean-Gervais, les financements des partis politiques auraient repris. Vous le confirmez?
Non, je n'ai pas la preuve. Il faut rappeler qu'au terme de la loi initiée par le président Laurent Gbagbo en 2005, il y a un financement public alloué aux partis politiques pour renforcer la démocratie. Et ce financement est payé chaque trimestre. Pour 2024, le PPACI a perçu uniquement le financement du premier trimestre de l'année 2024. Si des informations circulent pour dire que le paiement a été fait, nous attendons de voir sur notre compte bancaire que cet argent a été effectivement viré avant de le confirmer.
Et toujours sur la question du déguerpissement, le vice-président du PDCI RDA déplore le fait que cette décision ne soit prise que maintenant, alors que plusieurs familles ont été affectées. On écoute le député Kwame Yao Séraphin.
C'est étonnant que cette décision du gouvernement, qui devrait avoir vocation à se soucier du peuple, et surtout des plus faibles, n'intervienne que maintenant. Un ministre, un maire ou un gouvernant, local ou national, individuellement pris, peut commettre une erreur. Et cette erreur peut le porter à toucher à l'humanité de la population. Mais que cette erreur perdure sur plusieurs mois, que c'est plusieurs temps après que le gouvernement se rend compte et que ce gouvernement comprend qu'il faut prendre des décisions pour rattraper le tir, nous, PDCI RDA, on ne peut pas accepter cela. C'est vrai, on est en politique, donc on est dans une sorte d'adversité. Mais nous sommes des humains, nous sommes des Ivoiriens. Ce qui nous intéresse, c'est la stabilité et la paix. Et on aurait soutenu ce gouvernement, ne serait-ce qu'avec des mots pour dire « Bravo, vous avez pensé à la vie des Ivoiriens ». Mais on ne peut pas accepter que du jour au lendemain, des gens soient mis dans des conditions difficiles et que on puisse à la fin, un beau matin, se lever pour dire non, on a pris une mesure pour arrêter jusqu'à telle période. Mais enfin, on ne peut pas bâtir une nation de cette façon-là.
Vous écoutiez le député Kwame Yao Séraphin, vice-président du PDCI RDA, et avant lui, Tchéidé Jean-Gervais, porte-parole adjoint du PPACI, tous deux en ligne avec Soro Adams. Les populations ont aussi réagi à cette annonce. D'un côté, de nombreux habitants se réjouissent de cette décision. De l'autre, certains estiment que la poursuite de ces opérations est essentielle pour le développement du pays. Suivant ses avis dans ce Vox Pop.
Bon, ils vont plus casser ça. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que quand on sort, il y a des zones encore qui sont occupées de manière anarchique. Je crois que ça va compter. C'est une manière d'apaiser la population, bien le faire. Mais en dessous, certainement, ils vont continuer. Mais peut-être qu'à un degré moindre. Voilà.
Si ils veulent casser pour arranger et qu'ils trouvent que c'est ça qui est bon, mais qu'ils continuent. Pour quelles raisons ils vont arrêter maintenant alors? Ben moi, si c'est moi seulement, c'est que ça continue, mais que ce soit dans la légalité, c'est tout.
Au début même, moi, j'étais contre. J'ai dit, ah, on casse là. Nous débrouillons. On fait comment? Mais quand souvent tu arrives aussi, tu vois que la voie est dégagée. Ça évite beaucoup d'accidents et autres. Mais je ne sais pas si ça arrange aussi d'autres personnes. Ce sont les supérieurs qui savent pourquoi ils sont en train de déguerpir. Donc moi, je ne peux pas me prononcer sur ça.
Bon, je peux dire que c'est une bonne nouvelle. Mais par contre, pour ceux qui ont déjà cassé leur maison, ils font comment dans ce cas? Dédommager-les en fait. Parce que même si ça a été dédommagé, par exemple, c'est la personne qui a le terrain, vous avez dédommagé. Pas ces gens qui vivent là-dessus. Moi, oui, ils ont cassé, ça ne m'arrange pas. Où on se débrouille, qu'on vient casser, on fait comment? Donc, si il peut arrêter là. C'est une bonne nouvelle si ça s'arrête.
Bon, de prime abord, je peux dire que c'est déjà bien parce que nous connaissons un peu la situation financière de toutes les familles. Hein. Il y a eu des personnes au niveau des GESCO, là, on dit qu'ils ont trouvé des moyens pour que qu'ils puissent réellement réhabiter leur maison et autres. Je pense que s'il y a des solutions mises en place pour ces familles-là, je pense que c'est encore plus mieux.
Hors de chez nous, COP29, les pays développés se sont engagés à Bakou à financer davantage les pays vulnérables menacés par le changement climatique à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars par an d'ici à 2035. Le précédent objectif fixé en 2009 était d'atteindre 100 milliards par an en 2020, mais le nouveau montant est loin des attentes et des besoins des pays en développement et certains ONG ou négociateurs estiment que ce n'est pas un triplement effectif. Présidentielle en Roumanie, l'indépendant pro-russe Calin Georgescu crée la surprise et est arrivé hier dimanche en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Donné un temps en tête du premier tour de la présidentielle selon des sondages sortis des urnes, le premier ministre pro-européen Marcel Ciolacu est en troisième position et en passe d'être éliminé à l'issue du premier tour selon les résultats quasi finaux publiés ce lundi par la commission électorale. Et retour au pays, le dossier d'actualité de ce lundi nous emmène à Biankouma, ville située dans la région du Tonkpi. Face au chômage devenu exponentiel dans la localité, plusieurs jeunes se sont érigés en chauffeurs de tricycles, des moyens de transport qui, bien que nécessaires et moins coûteux, sont cause de nombreux accidents dans la ville. Notre correspondant régional Stéphane Adams s'est intéressé à la situation, suivons-le dans ce dossier.
Dans la ville de Biankouma, dans la région du Tonkpi, l'on observe à travers la ville les engins à trois roues, appelés communément Saloni, servant de moyen de transport du fait de l'absence des taxis communaux. Élèves et habitants des 10 quartiers les empruntent pour vaquer à leurs occupations. C'est le cas ici de ces deux passagers accostés pour la circonstance. Dame Yvette Gondo et Olivier Thia.
Moins cher, 100 francs à 200.
Ça nous rend un grand service. Quand on emprunte, on est toujours à l'heure à l'école, ça va.
Même s'il facilite la mobilité des résidents, ces tricycles font l'objet de nombreuses critiques.
Ces chauffeurs-là roulent très mal. À maintes reprises, ils doivent faire ces reproches-là. Ils sont un peu arrogants. Je ne sais pas sur quoi ils comptent.
Au Carrefour, il y a eu un accident qui s'est passé, une femme avec son bébé. En tout cas, ils font beaucoup d'accidents aussi.
Plus loin, à la grande gare routière, l'attitude des conducteurs de mototaxis est aussi mise en cause par les chauffeurs.
Les trois roulants, c'est vraiment un casse-tête pour nous. Et à chaque fois, ce sont les enfants qui sont sur des trois roues, qui n'ont même pas le permis. Et vraiment, à chaque fois, quand on se plaint, en cas d'un accident, ils prennent la fuite.
Chaque fois, un accident. Il y a eu un accident sur la route. La vieille voulait traverser la route pour venir à la prière vendredi.
Pour limiter les excès de vitesse et prévenir les cas d'accident, cet habitant du quartier Notre-Dame 1 de Biankouma, Francis Doué, explique l'existence de dodanes par endroit sur l'axe principal reliant Biankouma Mans.
Notre enfant est qui dans la cour et court en passant, trois roues là aussi, on ne part doucement. Ça là, on a pris pour les faire ralentir.
Face aux nombreux reproches, les concernés se prononcent.
Il y a des jeunes qui sont très excités, qui roulent très mal.
Et il y a des doyens comme nous, voilà, qui roulent très bien.
L'air de pointe là, t'es obligé de faire vite, vite. Les gens ont tendance à dire non, on roule mal, sinon on roule pas mal.
Le permis, on a besoin de ça même. Même tout le monde n'arrive pas à sortir. Donc, on a besoin d'aide pour faire permis pour pouvoir quitter dans ça aussi.
Au regard de l'utilité de ces engins, certains usagers appellent les autorités compétentes à plutôt prendre des mesures pour une meilleure organisation de l'activité.
Je souhaite qu'on mette de l'ordre, quoi. Parce que c'est les jeunes aussi qui se débrouillent, c'est normal. Et c'est mieux que le vagabondage.
Si l'État pouvait mettre sa main dedans pour les aider à avoir les permis, pour qu'ils puissent rouler dans les normes, soit pour les former, voilà, pour ne pas qu'il y ait des dégâts.
Notons que la jeunesse de Biankouma en a fait une véritable activité lucrative. Stéphane Adams, de Biankouma, Radio de la Paix.
Et nous en arrivons à l'invité de la rédaction, le dernier point fort de ce journal. Notre invité aujourd'hui est l'honorable Soumaïla Kwasi Bredoumi, député, membre du groupe parlementaire du PDCI-RDA et porte-parole de ce parti. Il est revenu sur l'histoire de la Journée nationale de la paix, instaurée par décret présidentiel le 7 mars 1996, sous le mandat du président Henri Konan Bédier. Célébrée le 15 novembre de chaque année, cette journée est une occasion de réflexion collective sur les valeurs essentielles de cohésion sociale, mettant en avant la paix comme une valeur fondamentale. Soumaïla Kwasi Bredoumi répond à cet effet aux questions de Soro Adams.
Bonjour honorable Soumaïla Kwasi Bredoumi.
Bonjour monsieur Soro Adams.
Ainsi donc, c'est fini la révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire a pris officiellement fin. le 17 novembre 2024. Alors, du côté du PDCI RDA, quel regard posez-vous sur cette opération?
Au niveau du PDCI RDA, nous constatons que le président Tidiane Thiam a eu vraiment raison pour dire qu'il y a un vivier d'Ivoiriens qui ne sont pas sur la liste électorale pour qui il faut donner des chances de s'y inscrire et de leur donner la possibilité de participer à tous les autres scrutins qui viendront. Donc, grosso modo, notre bilan nous donne autour d'un million d'électeurs potentiels qui sont inscrits. Donc, nous pensons que le stock d'Ivoiriens qui n'est pas encore sur la liste électorale est assez lourd. Notamment, ceux qui n'ont pas pu avoir des papiers de certificat de nationalité à temps et qui sont donc en ligne d'attente de leur certificat de nationalité. Certains ont pu avoir leur certificat de nationalité. Ils n'ont pas pu s'inscrire parce qu'au moment où ils sont arrivés dans les centres d'enrôlement, on leur a apposé le manque de fiches et le temps imparti. Donc tout cela fait qu'il y a un stock. Il y a aussi le stock de ceux qui n'ont pas encore d'extrait de naissance. Et ils sont les plus nombreux dans le milieu rural comme dans le milieu périurbain. Et il faut donc aller leur permettre de le faire, c'est un droit. Il y a aussi ceux qui ne sont pas encore motivés, qu'il faut motiver notamment les nouveaux majeurs. Et pour cela, il faut continuer le travail. Si on avait continué le travail aussi intensement que nous l'avons fait cette fois-ci, depuis 4, 5 ans, depuis 2021, nous pensons que le taux de 4 millions d'électeurs aurait été atteint. Donc nous sollicitons encore une fois qu'il y ait la prolongation, même qu'il y ait la continuité jusqu'en 2025 pour vider le maximum de ce stock de potentiels électeurs qui n'a pas pu se faire. Et cela va permettre à tous les Ivoiriens de participer au prochain scrutin et que le président ou l'élu qui se sortira de là soit le plus légitime possible.
Et ce sera légal, cette prorogation?
Ben écoutez, je pense que nous sommes en politique. Et tout ce qui doit se faire, ce sont nous les politiciens et les dirigeants politiques qui prennent les dispositions. Les gens nous opposent un problème de moyens, mais comme l'a dit notre président du parti PDCI-RDA, Tidiane Thiam, qui a rencontré un certain nombre de partis politiques, il a dit que les moyens existent. La communauté internationale est prête à nous accompagner, donc nous ne devons pas rater cette opportunité à la fois d'offres financières et d'opportunités d'inscrire le maximum d'Ivoiriens sur la liste électorale. Je pense qu'aucun politicien ne doit être opposé a priori à la possibilité qu'on doit donner à tous les autres Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale. Je ne vois pas de raison pour s'y opposer. Voilà.
Le président Thiam, dites-vous, a rencontré un certain nombre de responsables politiques dans ce sens?
Le président a rencontré un certain nombre de partis politiques de l'opposition et après l'élection, tous ces partis politiques veulent une prolongation, une opportunité supplémentaire à donner aux Ivoiriens pour s'y inscrire, pour s'inscrire sur la liste électorale. Et je pense que c'est leur droit de revendiquer les possibilités de s'inscrire sur la liste électorale. Donc, donnons la chance de s'y inscrire. Et ça, cette chance, c'est l'État et les partis politiques doivent convenir d'un processus et d'un mécanisme pour y adhérer. Le président a eu une réunion avec la coalition des partis politiques et de l'opposition qui sont venus le voir pour dire qu'il faut qu'il prenne le devant pour le faire. Et le président ne fuirait pas cette responsabilité de le faire.
Y a-t-il des chances que vous obteniez une nouvelle prorogation du processus de révision de la liste électorale?
Oui, notez que la révision devrait être annuelle et elle n'a pas été. Donc on ne peut pas laisser des opportunités passer et qu'on veut les rattraper, on veut que ça se passe en 2 semaines ou en 3 semaines. Il lui fallut que ce processus ait eu lieu chaque année, mais cela n'a pas été. Mais on a le temps donc de rattraper le maximum possible de ce retard-là en permettant une prolongation, même si une continuité, de maintenant jusqu'à mars 2025. Ça, je pense qu'aucun Ivoirien, aucune autorité politique ne puisse nous donner des raisons de refuser que des Ivoiriens aient l'opportunité de le faire. C'est une question de faire en sorte que l'élection qui va venir soit une élection apaisée et dont les résultats sont acceptés de tout le monde. Si on ne veut pas qu'il y ait des contestations, qu'il y ait un refus, qu'il y ait un rejet des hommes politiques, il faut donner la chance aux électeurs.
Je vous remercie, honorable Soumaïla Kouassi Bredoumi.
Merci, M. Souradam. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez à chaque fois. Merci.
C'était l'invité de la rédaction avec l'honorable Soumaïla Kwasi Bredoumi, députée, membre du groupe parlementaire du PDCI-RDA et porte-parole de ce parti, qui faisait son bilan de la fin de l'opération de révision de la liste électorale. Voilà donc qui met fin un terme à ce journal. Tout de suite, le rappel des principaux titres. Numériser les ressources des collectivités territoriales était l'objectif d'une conférence dénommée CNTIG User Conference tenue la semaine dernière à Abidjan. Et suite à l'annonce du Premier ministre de suspendre les opérations de déguerpissement à Abidjan, les politiques et civils se réjouissent de cette décision pour la plupart, en déplorant cependant les dégâts causés. Et dans l'actualité internationale, la COP29, 300 milliards de dollars d'aide seront remis aux pays vulnérables, un trompe-l'œil dénonce des ONG et des négociateurs. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Retrouvez maintenant la revue de presse avec Aoussi Potin.
Bonjour à tous. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement dans un an et nos quotidiens continuent d'en faire leur chou gras.